Trump, anatomie d'une révolution.
Arrivé au pouvoir il y a plus de 10 ans, Donald Trump bouleverse les États-Unis et l'ordre mondial. Derrière le chaos apparent se dessine une idéologie structurée, portée par des penseurs encore méconnus en France, entre post-libéralisme et national-conservatisme.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Maya Kandel.
Épisode 6. 2026, un nouveau monde.
Donald J. Trump sera le premier président du Conseil de la paix. Il aura le pouvoir exclusif de créer, de modifier ou de dissoudre des entités subsidiaires si cela est nécessaire ou approprié pour remplir la mission du Conseil de la paix. Extrait de la charte du Conseil de la paix, janvier 2026. Maya Kandel, on achève notre traversée de Trump et du trumpisme et de la révolution avec encore une révolution, d'une certaine manière. Début 2026, à Davos, la signature de ce Conseil de la paix. Est-ce que c'est révolutionnaire d'abord, première question, ce Conseil de la paix, et si oui, en quoi?
Alors, je ne sais vraiment pas si on en parlera encore dans 6 mois, hein, ouais. On verra.
Mais ça raconte des choses quand même.
Ça raconte des choses, oui, oui, absolument. Moi, je pense que autant 2025 a vu Trump vraiment pulvériser tout ce qui est normes, règles de fonctionnement de la démocratie américaine à l'intérieur. Là, cette année 2026 a commencé avec le Venezuela, puis les menaces sur le Groenland, donc quand même un président américain qui menace de s'emparer par la force d'une partie d'un territoire d'un État allié, membre de l'OTAN. C'est quand même assez vertigineux.
On a même du mal à le formuler.
Voilà. Donc, je crois que cette pulvérisation des normes nous arrive sur la scène internationale. Et ça ne va faire que s'accentuer, puisque Trump va quand même, à un moment, devenir un canard boiteux, un lame duck, c'est-à-dire un président qui ne se représente plus. Donc là, traditionnellement, aux États-Unis, ça veut dire un président qui agit beaucoup plus à l'international, où le président américain a davantage les mains libres. Donc, je crois que
ce n'est que le début.
Ce n'est que le début.
Oui. Revenons-y d'ailleurs, parce que dans son premier mandat, son premier slogan était « America first », qui a une dimension aussi internationale et historique, peut-être on peut en dire un mot. Il y a aussi la figure du président McKinley, il a mis son portrait dans son bureau. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? De son rapport au monde, de ses obsessions aussi, c'est un terme que vous avez employé à plusieurs reprises, pour montrer qu'il y a aussi une continuité quand même dans son approche des relations internationales.
Il y a une continuité dans son approche et dans sa vision du monde. Clairement, pour lui, le monde est un espace hobbesien où ce qui compte, c'est la loi du plus fort, où il n'y a pas d'ennemi permanent, ni d'allié permanent. Alors évidemment, on lui souffle des précédents historiques. Bon, il connaît quand même George Washington, Jefferson, l'avertissement, pas d'alliance permanente,
etc. Pour ne pas être étranglé.
McKinley, président des tarifs, mais aussi du revirement vers une politique étrangère plus interventionniste, impérialiste à la fin
McKinley,
du 19e.
McKinley, c'est important. Ouais.
Donc, ce qu'on voit par rapport au premier mandat, c'est que il est bon. On l'a dit, il arrive beaucoup plus préparé. Il arrive aussi avec toute une équipe aux ordres et prête à mettre en œuvre plutôt qu'à éventuellement essayer de s'opposer à lui, comme on avait le général Mattis dans le premier mandat, par exemple, ou ce qu'on appelait les adultes dans la pièce. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus d'adultes, il n'y a que des mignons. En plus, Trump a énormément pris confiance en lui aussi. Je crois que c'est ça qu'il faut voir. Il pense beaucoup à son héritage, la marque qu'il va laisser. Alors, il prend soin de mettre son nom partout.
Ouais. Mais au-delà de ça, on a beaucoup dit Trump, c'est la rupture, c'est la révolution. Mais est-ce que c'est finalement pas aussi une continuité? Parce que les Américains ont utilisé les institutions internationales quand elles leur profitaient. Est-ce qu'aujourd'hui, ils se disent pas d'un point de vue très très pragmatique, l'ONU nous sert plus parce que maintenant la Chine est trop puissante, parce que finalement ça nous entrave, et d'une certaine manière, il faut passer à autre chose. Vous avez fait votre thèse sur les années 90. Dans les années 90, oui, parce qu'ils n'avaient pas d'adversaire, ils adoraient le multilatéralisme. Mais à d'autres moments, ils se sont assis dessus aussi parce qu'ils considéraient que c'était contraire à leurs intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas une continuité aussi à
cette
zone-là?
Je pense vraiment que cette deuxième présidence Trump est une rupture dans le rapport au monde des États-Unis, vraiment.
D'accord.
La précédente rupture, c'était 1945. C'est la première fois qu'après une guerre, le Congrès n'ordonne pas la démobilisation totale des forces armées américaines. Les États-Unis vont conserver cette le quadrillage militaire du globe par les commandements combattants du Pentagone, c'est quelque chose qui date des combats de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on avait cette rupture après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on est à l'orée d'une nouvelle rupture. En tout cas, il n'y a plus de consensus aux États-Unis sur le rôle international des États-Unis. Et effectivement, ça part du principe qui avait été énoncé très clairement par Marco Rubio au moment de son audition de confirmation l'année dernière. Il avait dit « l'ordre international n'est plus bénéfique pour nos intérêts, c'est même aujourd'hui une arme qui est utilisée contre nous ». Mais ça, c'est une rupture absolument essentielle. Oui. C'est vrai qu'avant, les présidents américains, je crois que c'est Bill Clinton qui avait eu cette formule, il disait « multilatéraliste quand nous le pouvons, unilatéraliste quand nous le devons
oui. ». Bon,
évidemment, une grande puissance va toujours défendre de manière unilatérale ses intérêts si elle les juge menacés, oui. Elle ne va pas attendre l'assentiment des autres membres du club. Mais voilà, il y avait cet effort de multilatéralisme qui était en fait, oui, l'acceptation de perdre un tout petit peu en puissance et influence pour un système qui, au fond, était quand même bénéfique pour les États-Unis. Hein. Les organisations comme l'OTAN leur ont permis de légitimer des interventions que peut-être tout le monde n'approuvait pas, ou en tout cas que le Conseil de sécurité n'approuvait pas.
Et de vendre beaucoup d'armes aux Européens.
Aux Européens. Et d'ailleurs, Trump avait vraiment été tout près de retirer les États-Unis de l'OTAN en 2018. Et ce qu'il a retenu, en fait, c'est aussi de voir à quel point ça permettait de faire acheter aux Européens des armes américaines. Là, on est peut-être dans autre chose, parce que le Danemark a vu que les achats de F-35 oui, ne garantissaient pas son intégrité territoriale face aux menaces américaines. Donc, on est dans un changement de paradigme. Les États-Unis pourraient même se retirer de l'ONU. Ce qu'on voit aussi de manière très frappante, et là je crois qu'il y a aussi un côté où il prend de plus en plus confiance en lui, c'est cette utilisation de plus en plus décomplexée de la force militaire. Alors, on l'avait un peu vu dans le premier mandat, mais là, quand même, on l'a vu l'année dernière avec les bombardements en Iran, les menaces récentes à nouveau. On l'a vu avec l'intervention au Venezuela pour capturer quand même le dirigeant d'un pays voisin et le ramener aux États-Unis.
Mais est-ce que c'est... Parce que si on parle de révolution, c'est aussi dans la durée. Est-ce que, vous avez dit, Trump sera bientôt lame duck, ce qui peut d'ailleurs le rendre encore plus dangereux sur la scène internationale, si j'ai bien suivi votre raisonnement, mais Trump, théoriquement, ne sera plus là bientôt. Est-ce que la révolution trumpiste, elle, et c'est la question qu'on pose souvent, mais est-ce qu'elle peut durer après Trump? Est-ce que, désormais, les jalons posés depuis, en fait, 10 ans déjà, sont appelés à durer aux États-Unis, ou bien, pour reprendre les mots de Peter Thiel de l'épisode précédent, on se dira que c'était une aberration et puis on reviendra à la normale?
Alors, je ne pense pas qu'on reviendra à la normale si on considère normale comme la période pré-2016 avec toute une série de postulats sur l'action internationale des États-Unis, le libre-échange, la politique étrangère, etc. Tout simplement parce qu'on a vu déjà en 2020, mais surtout en 2024 dans la candidature de Kamala Harris, on a vu à quel point certaines ruptures introduites par Trump était désormais intégré aussi par les démocrates, le changement d'attitude sur l'immigration, c'est quand même un des points, vis-à-vis du commerce international et de l'ordre international aussi. Hein, il faut voir que certaines positions de Trump peuvent être soutenues par l'aile gauche du Parti démocrate aussi. Donc, voilà. Après, sur la révolution, sur le plan plus sociétal, culturel, ça va dépendre aussi beaucoup de l'avenir politique de J.D. Vance, pour le dire très simplement. Il a été vraiment choisi comme...
C'est lui l'héritier.
Comme héritier dauphin. Je pense que c'est davantage un héritier que Marco Rubio, même si Rubio s'est converti au trumpisme et va garder certains des éléments. Rubio a quand même été autre chose avant de se convertir. Et donc, Rubio, c'est quelqu'un, par exemple, qui est très conscient de l'utilité de l'OTAN, encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui croit dans une certaine mesure au multilatéralisme, plus dans la formule que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui pourrait revenir à une vision plus classique, même s'il y a toujours l'accent sur l'Amérique latine, etc., qui restera. Vance représente vraiment une rupture plus profonde, plus politique aussi. Enfin, 2028 étant dans une éternité, c'est difficile de savoir ce qui se passera d'ici là. En revanche, je pense qu'il y a des dégâts aussi de Trump qui seront durables, en particulier la manière dont il a utilisé la justice à des fins politiques. C'est ce dont il accusait les démocrates, alors que ils avaient quand même pris beaucoup de précautions justement pour ne pas être accusés de ça. Mais Trump l'a vraiment fait, jusqu'à énoncer des listes de gens qu'il aimerait bien voir poursuivis, qui sont ensuite inculpés, mis en examen. Donc là, on a des dégâts de long terme qui resteront. Et puis tout simplement, je pense, tout ce qui concerne l'espace médiatique, la transformation du paysage médiatique aux États-Unis, la construction vraiment par Trump et un certain nombre d'affiliés, de milliardaires proches de lui, d'un écosystème de propagande, en quelque sorte, extrêmement efficace. Tout cela, ça restera. En revanche, par exemple, la Silicon Valley, on a vu Mark Zuckerberg être woke avant de devenir masculiniste. Il pourrait très bien rebasculer de l'autre côté. Il y a beaucoup de gens dans la Silicon Valley qui se sont convertis à Trump d'abord très tard. Ils ont d'abord soutenu tous les candidats qui n'étaient pas Trump en 2023-2024. Dans ses patrons, ses investisseurs, on peut très bien en imaginer qui à nouveau soutiennent un candidat démocrate s'ils préfèrent.
On arrive au bout de notre conversation et j'aime bien poser des questions un peu plus personnelles à la fin. Quand on travaille depuis des années et des années et des années sur les États-Unis, est-ce que l'arrivée de Trump, c'est stimulant intellectuellement ou c'est épuisant moralement?
Les deux, très sincèrement. C'est totalement épuisant et avec une dimension supplémentaire là, depuis son retour en 2025.
Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une saturation de l'espace médiatique, politique, il y a tout le temps quelque chose.
Non, puis je pense, enfin, au-delà même de ça, c'est quand même extrêmement troublant et déprimant de voir les États-Unis. Moi, j'ai essayé de faire attention sur l'utilisation du mot fascisme, etc. Oui. En particulier, dans mon livre, c'était avant son retour au pouvoir, je m'interrogeais encore, il y avait quand même une volonté de respecter les règles du jeu démocratique, les règles de l'état de droit, etc. Or, ce qu'on voit depuis son retour au pouvoir, depuis un an, c'est qu'il est en train d'affaiblir vraiment les contre-pouvoirs, les conditions d'exercice de la démocratie aux États-Unis. Et puis, il y avait un peu deux choses qui manquaient, entre guillemets, pour qualifier ce qui se passe politiquement aux États-Unis, pour qualifier de fascisme, qui était une force de police brutale et privée qui fait peur dans les rues, et un aventurisme extérieur militaire expansionniste. Et là, depuis le début de l'année 2026, c'est ce qu'on observe très clairement. Donc,
Ça, c'est le côté déprimant. C'est quoi le côté stimulant, alors, intellectuellement? Et on finit avec une note un peu, peut-être, plus enthousiaste.
Le problème, c'est que ce qui me stimule intellectuellement peut être ultra déprimant aussi.
Allez, tentez le coup
quand
même.
Mais quand on s'intéresse aux États-Unis, c'est vrai que Moi, je travaillais sur l'influence des déterminants intérieurs sur la politique étrangère et sur la manière dont les deux parties se divisaient depuis la fin de la guerre froide. Et donc, c'était vraiment intéressant en 2015-2016 de voir quelqu'un cristalliser, en quelque sorte, et opérer la plus grande transformation politique de l'ère contemporaine. Donc ça, effectivement, quand on est analyste, qu'on travaille en prospective, c'est intéressant.
Oui, c'est un peu comme un climatologue qui voit le réchauffement climatique. Il est déprimé et en même temps, c'est un objet d'étude fascinant, j'imagine.
Absolument. Voilà. Très bonne comparaison.
Trump, agent du dérèglement climatique. Trump et sa révolution. Merci beaucoup, Maya Kandel, de nous avoir accompagnés et éclairés pendant cette conversation. Trump, Anatomie d'une révolution, est un podcast original de France Inter.